9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
Nous sommes à Londres à la fin du mois de mai 1908. C'est le mois de mai, mais on est à Londres, donc il pleut. Et quand la pluie cesse, voilà que s'installe dans les rues de la capitale britannique ce brouillard, hein, cette espèce de smog, comme on dit là-bas. Dans une des rues, une femme est là qui marche d'un pas très pressé. Elle est en train de traverser Grafton Street. Elle est accompagnée d'un homme plus grand qu'elle, mais qui pourtant semble avoir un peu de mal à la suivre. Elle, c'est Helena Rubinstein, et le monsieur derrière, c'est son mari, qui s'appelle Edward William Titus. Ils sont à la recherche d'un endroit où Helena pourrait installer une boutique. Ce serait la première des boutiques qu'elle ouvrirait dans le vieux monde. Pour le moment, tout ce qu'elle a réussi à ouvrir, Helena, se trouve de l'autre côté du globe, là-bas, en Océanie, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Alors, vous allez me dire, serait-elle australienne, cette dame? Mais non, en fait, elle est d'origine européenne et même, plus précisément, elle est polonaise. Si vous voulez, on va remonter quelques années en arrière, à l'époque où Helena n'était pas encore Helena, mais Shaja. Elle était l'aînée d'une famille juive modeste composée de 8 filles. Vous imaginez, dans cette Pologne qui n'était pas aimable pour les juifs, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle a un grand caractère, cette jeune fille. Elle affectionne l'indépendance. Elle a sans doute beaucoup d'ambition. Bref, à l'âge de 24 ans, la voilà partie pour l'Australie. Et c'est sur le navire qu'il l'emmène là-bas, de l'autre côté du globe, qu'elle change son prénom et qu'elle devient Helena. Elle retrouve sur place tout de même un oncle éloigné. Elle va travailler chez cet oncle un peu comme domestique. Elle est souvent complimentée pour sa beauté, pour sa très belle peau. On voit qu'elle apporte beaucoup de soins à sa peau dans un pays, l'Australie, où le soleil souvent détruit les peaux. On est très loin du soleil bien blafard et bien rare de la Pologne, là. Dans l'esprit d'Helena va naître la volonté de fabriquer des onguents, des pommades, des produits miracles d'une certaine façon, et de les vendre. Elle avait, par un ami chimiste, un ami de sa mère, un ami chimiste hongrois, elle possédait la recette d'un mélange d'herbes, d'écorces, d'amandes. Elle va faire sa propre pommade et elle baptise cette crème Valace, ce qui en hongrois veut dire le don du ciel. Et ça se vend bien, cette petite pommade hongroise. En 1902, elle dépose la marque Helena Rubinstein et elle ouvre à Melbourne une première boutique. Oh, c'est le tout début. Voici ce que raconte Michel Fitoussi, qui est biographe d'Helena Rubinstein. La fabuleuse ascension d'Helena en Australie s'explique aussi par son génie du bon timing, ce qui en affaire comme en amour est la condition première du succès. Elle est arrivée au bon endroit, au bon moment, dans un pays où les femmes commencent à se sortir des carcans imposés. À Londres, à Paris, à New York, le même scénario va se répéter. Chaque fois, son enseignement de la beauté accompagne leur évolution. Il n'y a rien de frivole à vouloir être belle. Et du reste, les droits politiques, le travail, l'autonomie financière vont de pair avec l'amélioration de l'apparence. Ce dernier point devient même souvent un acte de résistance. Helena l'a bien compris, pour réussir sa vie, une femme moderne se doit d'avoir une tête aussi bien faite que bien pleine. Pour le moment, elle n'a pas encore réfléchi à tout cela. Ce qu'elle veut, avant tout, c'est gagner de l'argent. Et vite. Après toutes ces années difficiles, plus rien ni personne ne l'effraie, excepté la pauvreté. Ça, c'est en quelque sorte ce qu'il est question de fuir. Absolument. Fuir la pauvreté. Mais il y a bien, au fond, l'idée d'épouser l'esprit d'une époque et d'aider les femmes à s'autonomiser, à s'émanciper d'une certaine manière. Et pourquoi pas s'émanciper aussi par la maîtrise de leur apparence. Helena va consulter toutes sortes de scientifiques qui vont pouvoir l'aider à améliorer ses produits, des dermatologues, des médecins. Elle perfectionne son offre, elle la diversifie beaucoup. Et on peut dire que dans l'univers assez étroit de la cosmétique en Océanie, elle devient très vite une personne qui compte. Et elle va ouvrir d'autres boutiques en Australie, bien sûr, mais aussi en Nouvelle-Zélande. Et c'est à ce moment-là qu'elle se dit qu'il faut donc retourner en Europe pour essayer de donner vie à ce qui est en train de devenir une entreprise florissante. Et pourquoi pas grâce à l'extraordinaire vivier que constitue la capitale de l'Empire britannique, que constitue Londres.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Et voilà comment on se retrouve en mai 1908 à Londres où Helena vient d'arriver. Elle est donc accompagnée par son mari. Ils viennent juste de se marier. Hein. Edward Titus est journaliste, collectionneur, c'est un Américain. Et lors d'un séjour en Australie, il a rencontré Helena. C'est une vraie rencontre amoureuse. Ils vont se soutenir sans cesse avec une histoire qui sera ponctuée de hauts et de bas. Quand je dis de hauts, de très hauts et de très bas même. Helena, enfin, va trouver l'endroit parfait pour ouvrir sa boutique londonienne. Et là, il faut tout recommencer à zéro. Parce que bien sûr qu'on la connaît en Océanie, mais la notoriété, elle ne l'a pas suivie de ce côté-ci du globe. Elle va devoir démontrer son savoir-faire et elle s'installe dans le quartier huppé, dans le quartier extrêmement dynamique et entre nous soit dit tellement agréable de Mayfair. Elle se permet de voir grand dans une bâtisse de style géorgien dont le prix est plus élevé que le budget qui avait été prévu. Mais c'est pas grave, Helena a cette capacité à toujours viser juste en voyant grand. La bâtisse s'étend sur 26 pièces et 4 niveaux, écrit encore Michel Fitoussi. Les deux premiers étages sont réservés à la boutique et à l'institut. Helena prévoit d'habiter le troisième. Le grenier abritera sa cuisine. Les travaux doivent prendre quelques semaines. Helena est consciente de jouer là son va-tout. Londres peut la rejeter en un rien de temps ou la porter au nu. Elle se rend à Paris, où elle s'enquiert des dernières trouvailles sur la peau, découvre de nouveaux traitements à l'électricité, refait sa garde-robe. À Vienne, elle persuade le docteur Emil List de rejoindre son équipe. Et à son retour, elle déborde d'énergie, d'idées pour inventer d'autres produits, des crèmes contre l'acné, des toniques, des astringents. Et comme prévu, les clientes arrivent toutes les unes après les autres, mues par une curiosité malsaine. Pourquoi malsaine? Je laisse à Michel Fitoussi la responsabilité de cette épithète. Le tout Londres s'interroge sur l'identité d'Helena. Ses handicaps sont de taille. Elle est étrangère, roturière, juive. Les Anglais ne supportent l'exotisme que dans leur colonie. Et encore, à condition que les natifs restent à leur place. Pourtant, on murmure que ses soins font des merveilles sur la peau. L'attrait de la nouveauté l'emporte alors sur le snobisme. Oui, les Anglaises sont pas très accueillantes, mais elles ont ceci d'extraordinaire qu'elles adoptent volontiers les modes nouvelles. Et Helena va recevoir toutes sortes de ladies. Elle-même est très bien habillée, hein, par-dessus des vêtements très chics. Elle porte une blouse de chimiste, ce qui lui donne un air très sérieux, évidemment. Mon approche de la beauté est scientifique, dit-elle. Et oui, c'est comme ça qu'elle va les avoir, toutes ces dames. Elle fabrique que tout ça, c'est vrai d'ailleurs, avec des scientifiques, avec des médecins. Elle va aussi marquer la différence par rapport à tous ceux qui ne font des produits de beauté que quelque chose de purement, de classique et d'esthétique. Elle assied sa notoriété en imposant à tous des produits qui ont été testés scientifiquement. Alors ça vaut ce que ça vaut, mais en tout cas, ça permet de faire parler. On peut dire d'Helena Rubinstein qu'en plus de toutes ses qualités, elle possède à fond le sens de la communication. Non seulement elle est douée pour inventer de nouvelles méthodes de soins, mais elle sait faire du marketing. Et c'est vrai que dans ce domaine, dans ce registre, elle est épaulée par son mari. C'est une trentenaire dont je vous parle. Hein. C'est encore une bien jeune femme qui est en train d'ouvrir d'autres boutiques à Londres. Ce qui est en train peu à peu de se constituer, vous le voyez bien, c'est ce qu'on va pouvoir appeler un empire. Thank you. c'est Rubinstein, Arthur Rubinstein, bien sûr, qui interprétait cet intermezzo, le troisième de Poulenc.
Vous écoutez Radio Classique.
Arthur Rubinstein fait partie de ceux qui fréquentent l'établissement londonien de Madame Rubinstein, mais il n'est pas le seul, hein. Rudyard Kipling également, qui quand même vient d'avoir son prix Nobel de littérature, et James Barry, l'auteur du Peter Pan, et Virginia Woolf, et Margot Atwood, la femme du Premier ministre, qui est une habituée. Bref, on peut dire qu'Elena est en train de se faire dans la société londonienne tellement fermée a priori, une place extraordinaire, et ça n'a pas demandé longtemps, hein. Un an seulement. Elle en profite pour faire venir de Pologne ses sœurs, elle en a 7, je vous le rappelle, et elle va à chacune confier une mission qui lui correspond, y compris la gestion des magasins londoniens, bien sûr, parce que maintenant, Elena est déjà ailleurs. C'est le marché français qu'elle vise, et notamment la capitale de la beauté, n'est-ce pas, Paris. Elle va rencontrer Marie Curie, à qui elle pose toutes sortes de questions sur la chimie. Plusieurs personnes vont dire à Elena, les Françaises sont des femmes pragmatiques qui adorent le luxe. Vous pouvez satisfaire leurs deux penchants en créant votre salon à Paris. Et chez qui faut-il se rendre quand on veut savoir comment fonctionne la société élégante parisienne? Chez celui qui est le grand couturier qui vient de libérer la femme du corset, Paul Poiret, bien sûr. Elena considère que, comme Paul Poiret, elle lutte pour le bien-être des femmes. Ils deviendront d'ailleurs amis tous les deux. Et Elena restera toujours fidèle à Paul Poiret, même lorsqu'il sera détrôné par la célèbre Chanel. Vous savez, quand Coco Chanel va littéralement faire passer Poiret pour quelqu'un de démodé. Elena achète un terrain à Saint-Cloud, elle fait construire là un grand laboratoire et elle s'installe ensuite à Paris en 1912. Elle est déjà à la tête d'une grande fortune, hein, et la boutique qu'elle ouvre se trouve évidemment rue du Faubourg Saint-Honoré. Elle va y fréquenter tout le gratin de l'intelligentsia. Alors, de même qu'elle avait tout ce qu'il fallait fréquenter à Londres, eh bien on voit dans son salon parisien Marc Chagall, Louise de Villemorin et Joséphine Baker et Colette, s'il vous plaît, Salvador Dali et qui sais-je encore. Et Pablo Picasso, qui n'a jamais pu finir son portrait d'ailleurs, parce qu'il était un peu découragé par le caractère autoritaire du personnage. Et puis Jean Cocteau, c'est lui Jean Cocteau qu'il va lui donner ce surnom d'impératrice de la beauté qui va faire le tour du monde. Elena va donner le jour à deux fils, Roy et Horace, qui seront ses deux grands protégés. Mais l'impératrice doit quand même subir les infidélités de son mari, oui. Ça, c'est dommage. Édouard est un coureur de jupons. Oh, ça l'empêchera pas, Elena, de garder à son égard une véritable tendresse. Elle va souvent aux puces pour chercher l'inspiration d'un nouveau design, pour essayer de s'inspirer de ce qui s'est fait avant, pour le moderniser, pour le recycler d'une certaine manière. Ça aussi, c'est un de ses grands secrets. Et au passage, elle rapporte des trésors et elle va devenir une grande collectionneuse. En octobre 14, on est au tout début de la Première Guerre mondiale, elle décide que c'est le moment, puisque l'Europe est en train de plonger dans le désastre, eh bien c'est le moment d'aller traverser l'Atlantique et de s'installer à New York, à nous deux les États-Unis, si je puis dire. Terrain plus difficile, parce que là-bas, il y a le puritanisme. Alors c'est vrai qu'il est un peu à bout de souffle, le puritanisme américain, mais il sévit encore beaucoup et il est très opposé à toutes les idées de cosmétiques, de maquillage, etc. Mais il y a quand même beaucoup d'Américaines qui aspirent, comme les autres, à une forme de libération. Et c'est intéressant de voir à quel point les produits cosmétiques font partie, si j'ose dire, de la trousse à outils de la parfaite femme libérée du début du XXe siècle. Et de ce côté nouveau de l'Atlantique, c'est vrai que c'est un peu plus difficile, mais Elena arrive à s'imposer, non seulement en Amérique du Nord, mais aussi en Amérique du Sud. Je cite Laurence Pedro. Les instituts de beauté se multiplient. Elle met à leur tête ses sœurs cadettes pour ne jamais perdre le contrôle. Stella dirige celui du Faubourg Saint-Honoré. Cheska est à Londres après avoir quitté l'Australie. Manka la suit en Amérique. Rosa est en Argentine. Et parallèlement, Madame, comme on l'appelle, acquiert des appartements somptueux, collectionne les colliers de perles en particulier, achète à chaque infidélité d'Edouard un nouveau collier. Sa phénoménale ascension sociale et financière décolle en 1928 lorsqu'elle vend la branche américaine de son affaire au Lehman Brothers et connaît son apogée après la crise de 29, lorsqu'elle la leur rachète 7 fois moins cher. Elena n'aime rien tant que voyager. Ses seuls moments de repos, elle en jouit sur les bateaux de luxe. Lors des escales, elle regarde les tissus, les couleurs, les visages. Elle absorbe les coutumes locales. Elle s'en inspire. Elle est une citoyenne du monde qui se sent partout chez elle. En 1929, le New Yorker lui consacre un article intitulé « La femme qui n'avait pas de pays ». Elle est née polonaise, c'est vrai, devient australienne après naturalisation, américaine après son mariage avec Titus. La France est son pays préféré. Elle a organisé la mondialisation de ses produits comme la sienne. Dès que l'occasion se présente, elle ouvre un nouveau salon. Partout où elle passe, elle démarre de zéro avec cette rage de réussir qui jamais ne la quittera. Et au tout début des années 30, elle va faire détruire l'hôtel de l'île Saint-Louis à Paris qu'elle a acheté. Et avec son immense fortune, elle fait construire à la place quelque chose de somptueux où elle va pouvoir placer ses fameuses collections achetées au puces et ailleurs. J'ai beaucoup d'antiquaires aussi, disons-le. Elle est maintenant domiciliée au 24 quai de Béthune. Elle fait construire une très grande terrasse où elle va recevoir près de 300 personnes pour des soirées qui sont les plus courues, bien sûr, avec cette vue complètement incroyable, plongeante sur Notre-Dame. En 1939, Elena présente son nouveau produit phare, le mascara waterproof. Pour la première fois, les femmes vont pouvoir se maquiller sans craindre les coulures noires, vous savez, qui était un peu le problème à l'époque. Et à l'occasion de cette présentation, pas oublier qu'on est aussi à l'époque où les femmes deviennent sportives et où il faut qu'elles puissent rester maquillées jusque dans l'eau des piscines, n'est-ce pas? Elena va organiser un grand ballet aquatique à New York avec des plongeuses qui portent le fameux mascara qui évidemment ne coule pas. Alors là, elle est devenue une espèce de gloire. Dans le monde entier, sur tous les continents, on utilise ses fonds de teint, ses rouges à lèvres, ses vernis, ses mascaras, bien sûr. En 39, évidemment, la situation est plus que tendue. Elle est à Paris au moment où l'Allemagne et l'Union soviétique envahissent la Pologne le 1er septembre. Elle en est sûre, la France vaincra, en tout cas le camp allié, devrait-on dire. En mai 40, quand toutes les défaites se succèdent avec l'offensive allemande de mai 40, faut pas oublier qu'elle est juive, Elena Rubinstein, elle va s'installer aux États-Unis. Et là, évidemment, peut-être pour la première fois de sa vie, elle se dit que tout devient tout de même bien incertain. C'est Marek Schlezer qui interprétait ce prélude en ut dièse mineur de Karol Szymanowski.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Ah, c'est bien sûr très dur cette Deuxième Guerre mondiale. On voit Elena Rubinstein offrir de la crème solaire aux soldats des armées alliées. Elle fait aussi des kits de camouflage pour les forces spéciales. Mais à la libération, le retour en Europe est bien amer. Son appartement de l'île Saint-Louis a été complètement dégradé. On a pillé ses biens. Les boutiques sont sans dessus-dessous. Vous n'oubliez pas qu'elle était juive. Et d'ailleurs, bien des membres de sa famille ont péri dans les camps de la mort. Mais elle va pas se décourager. Elena Rubinstein, elle va relancer ses affaires avec celui qui la soutient maintenant, qui est un prince géorgien. Il s'appelle Archil Gourievitch Konia, c'est son nouveau mari, et on les voit se balader dans l'île Saint-Louis. Elena, 72 ans, toujours aussi élégante, plus soignée et bien coiffée que jamais. Son mari est plus grand qu'elle, toujours très élégant, lui, dans son complet noir. Et elle parcourt tous les continents, elle a reconstruit les boutiques qui avaient été bombardées à Londres, elle en multiplie, elle en construit d'autres. Dites-vous quand même qu'elle possède 15 usines maintenant, qu'elle fait travailler 30 000 employés dans des boutiques qui ont ouvert dans le monde entier. Je vous parlais d'un empire, c'est un immense empire. Vous imaginez que 50 ans plus tôt, elle était sur le bateau pour l'Australie sans un sou et qu'elle arrivait comme employée chez son oncle à Melbourne. Extraordinaire réussite. On peut dire d'Elena Rubinstein qu'elle incarne la grande réussite d'une femme totalement émancipée au milieu du XXe siècle.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Et la fin de sa vie est marquée par les deuils, la mort de son premier mari, Edward Titus. Vous rappelez qu'elle avait gardé des liens forts avec lui. Et puis la mort du second mari, son prince géorgien. Et puis la mort de son fils Horace dans un accident de voiture à New York 2 ans plus tard. Des disparitions, nous dit Jean-Baptiste Galen, qui a préparé toute cette émission et qui a suivi les pas, il faut arriver à la suivre, hein, d'Elena Rubinstein. Des disparitions qui l'ont laissée anxieuse, certes, mais aussi sans doute difficile à vivre. En souvenir des membres de sa famille morts dans la Shoah, elle va financer des infrastructures dans le nouvel État, dans le jeune État d'Israël, notamment la construction d'un pavillon d'art contemporain au musée des Beaux-Arts de Tel Aviv. Elle fonde aussi cette fondation, Elena Rubinstein, hein, cette fondation qui porte son nom et dont la mission est d'aider les femmes dans le besoin. Les enfants aussi sont très aidés par la fondation Elena Rubinstein. Elle-même continue bon pied bon œil à tout vérifier, à tout tenir d'une main de fer. Elle est absolument extraordinaire. C'est à l'âge de 92 ans qu'elle finira par s'éteindre à New York, le 1er avril 1965. Ah, vous imaginez bien que cette mort-là fait la une des journaux dans le monde entier. Le Herald va titrer « Nous pensions qu'elle était immortelle ». Et oui, on la voyait toujours vive, toujours joyeuse en public. Il semblerait qu'elle n'ait pas toujours été en privé. Mais en tout cas, cette femme incroyablement dynamique avait fait tourner toutes les têtes, partout. La plupart des journaux vont retenir pour la nommer l'appellation que lui avait donnée Cocteau. On peut dire d'une certaine façon que dans l'immortalité, c'est par Cocteau qu'Elena Rubinstein avait été baptisée l'impératrice de la beauté.
Vous écoutez Radio Classique.
Et après l'impératrice de la beauté, voici l'empereur de l'éloquence. Christian Morin, bonjour.
Merci, je pensais que vous alliez dire de la beauté, mais enfin...
Aussi, aussi bien sûr.
Je reviendrai pour avoir un autre compliment. Merci beaucoup, mon cher Franck. Pour terminer la semaine cet après-midi, nous restons avec ces femmes très importantes, comme la comédienne Sophie Arnoux, que vous avez évoquée.
Oui, passionnante, vous allez voir, pleine d'humour, notamment.
14h, Franck Ferrand, bon week-end, et puis à lundi. Bon week-end.